Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia au micro pour vous présenter cette émission hebdomadaire L'Amérique et vous. Et nous revenons ce soir sur les élections de mi-mandat de mardi. Les résultats de ces élections ont débouché sur un congrès divisé. Les républicains maintiennent leur mainmise sur le Sénat tandis que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Alors, quelles conséquences sur ces résultats auront-ils sur la gouvernance ici aux États-Unis pour les deux prochaines années? Comment la cohabitation politique peut-elle profiter au pays? Alors, je rappelle le numéro, c'est le 001-202-205-2633. Nous avons déjà en ligne l'un de nos invités, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Nous devions également avoir Mamadou Diouf, le professeur Mamadou Diouf de Columbia University. Nous tentons toujours de le joindre. Monsieur Cohen, bonsoir. Monsieur Cohen, vous êtes en ligne?
Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, pour vous... Que montrent ces résultats des élections de mi-mandat? Quelle lecture en faites-vous?
Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de... On ne peut pas refuser de dire que c'était une défaite politique pour président Trump. Parce que avant, les républicains contrôlaient la Chambre des représentants. Maintenant, ce sont les démocrates. Et une chose qui est très importante... Sur les 35 sièges qui ont changé de républicains en démocrates, presque tous étaient des circonscriptions où Trump a gagné en 2016. C'est-à-dire les gens qui ont voté pour Trump en 2016 ont voté démocrate en 2018. Donc il n'y a pas de doute, c'était un vote contre président Trump.
Une sorte de vote sanction, si on peut dire ainsi. Mais on a vu aussi le président qui s'est beaucoup mobilisé pour des candidats. Et est-ce qu'on, quand même, on peut mettre cela à son actif, le fait que certains des candidats qu'il a soutenus ont gagné?
Oui, c'est-à-dire il a travaillé beaucoup pour les sénateurs. Et jusqu'à maintenant, les comptes sont pas encore terminés, mais les républicains ont gagné deux sièges dans le Sénat. Et le président s'est félicité parce que c'est lui qui a appuyé les gagnants.
En même temps, on a vu que c'est un peu, si on peut dire même, moqué de ces candidats républicains qui n'ont pas voulu de son soutien, de ces candidats qui ont perdu.
C'est ça. Oh, oui, il a dit que les députés, les représentants qui ont perdu, c'était à cause du fait qu'ils n'ont pas embrassé le président, qui est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Mmh. Tout le monde a dit, nous sommes des trumpistes, mais ils ont perdu quand même.
D'accord. On me dit que le professeur Mamadou Diouf de Columbia University est en ligne maintenant. Professeur Diouf, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je demandais tout à l'heure à l'ambassadeur Cohen sa lecture des résultats des élections de mi-mandat. Quelle est votre lecture à vous de ces résultats?
Ce sont des résultats qui sont catastrophiques pour le président Trump et pour le parti du républicain. Et ce sont des résultats qui sont extrêmement positifs pour le Parti démocratique, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont désormais la possibilité de contrer la politique du président. La deuxième, c'est qu'ils ont une base très forte qui va leur permettre d'aborder les élections de 2020 d'une manière, si vous voulez, beaucoup plus prometteuse, dans la mesure où ils ont été capables de retourner la situation. C'est quand même extraordinaire. Ils sont arrivés à faire mieux que la meilleure année, disons, au moins pour la Chambre des représentants, disons, les élections d'après Watergate. Et la deuxième chose, c'est qu'on assiste à un renouvellement du personnel politique.
Tout à fait. Mais les républicains pourraient également rétorquer qu'ils ont réussi à conserver le Sénat.
Mais ça, c'est un prétexte pour cacher leur extraordinaire défaite. D'abord, ils n'avaient pas beaucoup de candidats, si vous voulez, pour le Sénat.
C'était plus les démocrates, hein, qui étaient dans des états difficiles, ouais, effectivement.
Oui, c'est en 2020 qu'on va voir, effectivement, qu'ils vont prendre un coup sur la tête. Parce qu'ils auront beaucoup plus de candidats. Mais la situation la plus intéressante, si vous voulez, c'est même pas ça. C'est que probablement ces élections vont amener les politiciens américains à reconsidérer la structure des élections dans ce pays. Parce que les démocrates vont avoir beaucoup plus de voix, presque 6 millions de voix de plus que les républicains, et perdent, si vous voulez, le Sénat, parce que la Californie est représentée comme le Rhode Island ou le Montana, où il n'y a personne.
D'accord. Alors, ambassadeur Cohen, le professeur Diouf parlait de renouvellement de la classe politique. On a vu une percée des femmes et des minorités, avec notamment dans le Minnesota et le Michigan, qui vont envoyer deux femmes musulmanes au Congrès pour la première fois.
Oui, ça, c'est sensationnel, à mon avis. Ça montre que malgré le racisme du président, c'est-à-dire tout le monde qui n'est pas blanc est dangereux pour le pays. Il a joué la carte raciste et ça n'a pas marché. Les Américains sont très tolérants. Bien sûr, il y a certains Américains, surtout dans la classe ouvrière, les blancs qui sont pas marginaux, mais qui ont des revenus assez bas, eux, ils écoutent ça. Ça. Ils voient qu'il y a des hispanophones, les noirs, qui deviennent de plus en plus nombreux.
D'accord.
Donc ils jouent sur ça, mais les Américains n'aiment pas ça.
D'accord, c'était un message fort pour vous. Alors, j'aimerais qu'on parle de la Floride, mais on me dit qu'on a un auditeur, Hassan Boulalé de Djibouti. Hassan, bonsoir.
Bonsoir à vos invités aussi.
Alors, vous dites que ces élections étaient déjà une prélude à ce qui va se passer en 2020?
Oui, parce que moi, je dis ce qui est très important. D'abord, M. Trump, ce n'est pas un politicien pour moi. C'est quelqu'un qui prend des risques, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Donc c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place ses stratégies personnelles. Donc il n'est pas politicien, il n'utilise pas des termes politiques, ni il ne se préoccupe pas de la politique. Donc il prend des risques comme un homme d'affaires et il est en train de travailler ou d'œuvrer ou de mettre sa feuille de route en utilisant ses points de vue personnels.
Et vous pensez que ça marche pour lui, et c'est plutôt peut-être ça l'eau conduit vers des difficultés en 2020?
Il y a une contradiction. Il a des points positifs et en utilisant sa politique personnelle et voilà en attaquant les points qu'il trouve essentiels pour l'État américain ou l'administration américaine. Mais dans ces deuxième parties ou dans les ans qui restent pour lui, je crois qu'il y aura beaucoup de compromis entre démocrates, républicains, et ça va se baser sur la préparation aux élections présidentielles qui vont venir.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hassan. Alors, professeur Mamadou Diouf, perdre les élections de mi-mandat, ça ne veut pas forcément dire perdre les élections qui vont suivre. On l'a vu avec Obama et même avec le président Clinton.
Oui, mais les situations sont différentes. Et il faut bien les comprendre. Par exemple, en écoutant l'invité djiboutien, j'ai été fasciné par une chose. C'est extraordinaire, aliénation qu'on a à propos de Trump qu'on présente comme un homme d'affaires, alors qu'il n'est pas. Aujourd'hui, ce que les Américains ont découvert, c'est que cet homme est dans des combines, qui sont des combines assez extraordinaires, et qu'il n'a pas une démarche, si vous voulez, d'homme d'affaires, si on compare à l'ancien maire de New York, Bloomberg. Ça, ce sont des hommes d'affaires. Trump, c'est un homme de combine, et lui-même le reconnaît. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il est en train de payer. C'est d'une part son comportement individuel qui tourne autour de son enrichissement, mais d'autre part, le fait que pour se protéger, il est obligé, en fait, si vous voulez, d'aller à l'encontre de la Constitution américaine. Ce qui est en cause aujourd'hui, et c'est comme ça que les Américains ont réagi, c'est de dire qu'il faut arrêter ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que 2020 pourrait amener des surprises, mais ce serait des surprises, une surprise assez extraordinaire.
Ouais. L'autre, il y a quelqu'un qui disait que 2 ans en politique, c'est très long. Hein. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 ans.
Oui, mais les 2 ans vont être marqués par une série de crises successives où Trump n'a pas, Trump, comme on dit au poker, Trump aujourd'hui n'a pas la main. Et c'est ça le problème. Mais c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle classe qui est très importante. Par exemple, on prête une plus grande attention à la diversification. Mais cette diversification a une dimension assez extraordinaire. J'ai vu cette femme qui est noire, qui est une infirmière, qui a été élue dans le Illinois, dans une circonscription où 86% de la population est blanche.
Tout à fait. Tout à fait.
Et on lui a demandé, mais comment vous avez fait pour gagner? Et il a eu une réponse extraordinaire, parce que la journaliste lui demandait ça en lui disant, vous êtes noir, plus des 3/4 de la population est blanche là, comment vous avez fait? Et là, une réponse extraordinaire, elle a dit, mais c'est ma communauté, j'ai grandi là. Et c'est ça la nouveauté.
Très intéressant, effectivement.
A amené les Américains.
Oui, professeur.
À penser, ils ne le pensent plus.
D'accord, on va revenir sur ça. Professeur, quand on écoute le président Trump et Nancy Pelosi, qui pourrait certainement être la prochaine présidente de la Chambre, les deux ont signalé une volonté de discuter. C'est peut-être en début, peut-être que le ton va changer, mais est-ce qu'on a le choix ici de, si on veut avancer, il faudra forcément discuter.
Condamner à discuter, à coopérer, à faire des compromis. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité du président Trump de changer de cap. Parce que pour lui, gagner, c'est beaucoup plus important que la politique qu'il suit. Donc, il a même parlé tout de suite après l'élection et dit, oh, Madame Pelosi, elle n'est pas méchante. Je voudrais bien travailler avec elle. Ce qu'il cherche, c'est de changer sa réputation. Au lieu d'être, comme le professeur a dit, quelqu'un de combine, il veut être quelqu'un de compromis maintenant. Et c'est pas impossible que d'ici 2 ans, ce sera un autre Trump qui va se présenter pour les élections.
D'accord. On me dit qu'on a un auditeur du Mali, Brahima Doumbia. Brahima, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors, vous avez une question ou vous voulez juste contribuer au débat?
Bon, je contribuais aussi à une question.
Allez-y.
Je pense que comme il vient de le souligner, Trump quand même est obligé de négocier ou d'aller avec et de faire avec les démocrates, je dirais. C'est vrai, c'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup de sa démarche, puisque depuis sa pré-campagne, depuis ses débuts, il a affirmé certaines choses et il est sur cette voie-là. Aujourd'hui, il n'est pas tellement dans une position de faiblesse, puisqu'il contrôle le Sénat. Mais je pense que vous posez la question dont je vais poser, c'est que est-ce que sur le court terme, ils vont s'entendre, les démocrates et les républicains, et quel sera l'effet de cette conciliation ou de cet accord qui va permettre aux Américains de se réunifier, de s'unir et de travailler main dans la main, puisque aujourd'hui l'Amérique est un peu déchirée. Et est-ce que sur le court terme ou sur le long terme, ils pourront se réunifier et s'entendre, les démocrates et les républicains, et marcher voilà.
Merci beaucoup, Brahima. Professeur Diouf, vous avez une réponse à cela sur le court terme?
Oui, sur le court terme, la réponse est très simple. On oublie que Trump était démocrate avant de passer républicain. On oublie que Trump était plus ou moins ouvert, libéral, si vous voulez. C'était un républicain libéral avant de réclamer une position de conservateur. On oublie aussi que Trump, c'est ça que j'appelle cette robine, pour ne pas perdre, comme disait M. Cohen, Trump est capable de s'adapter. Et c'est pour ça que...
Disons, est-ce que ce n'est pas de l'habileté, peut-être? Non?
Mais l'habileté, justement, quand ça marche, ça marche. Son habileté, ça a été de faire en sorte, avec son mur à construire, etc., etc., sa position systématique, qui est une position de défense de la suprématie blanche. Son racisme lui a permis d'avoir ces fameux 35 à 40% d'Américains qui, même comme il l'a dit, s'il tirait sur quelqu'un sur la 5e avenue, il voterait toujours pour lui. Donc, il a, si vous voulez, son groupe qui lui est fidèle et loyal. D'accord. La question qui se pose, c'est jusqu'à quel moment il peut compter sur ce groupe pour ne pas perdre la face. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la capacité des démocrates à lui faire perdre la face. Mais on oublie aussi une autre chose.
Le milieu, en fait, les indépendants plutôt, le poids des indépendants.
Oui, le système américain est un système où les gens font toujours des compromis. Ce qui s'est passé depuis l'élection d'Obama, ça a été une rigidification du système où la droite américaine a décidé de créer tous les problèmes à Obama. Maintenant, ce qui va se passer avec les élections qui viennent de se dérouler, mais les républicains au Sénat ne vont pas rester homogènes, ça c'est évident. Romney est en train de le montrer déjà.
Oui,
Romney
il a demandé
va probablement
qu'on...
créer un groupe qui va être un groupe qui va être plus proche des démocrates que des républicains. Donc,
Monsieur Romney a déjà demandé qu'on protège l'enquête que mène Monsieur Mueller. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de la Floride, encore la Floride, Monsieur Cohen. On parle maintenant de recomptage des voix et de suspicion de fraude. Pourquoi la Floride est un État difficile politiquement parlant, aussi bien pour les démocrates que pour les républicains? Monsieur Cohen?
Des gens qui arrivent pour prendre leur retraite de tous les États des États-Unis. Donc, vous avez les gens qui viennent de Michigan, de Ohio, qui sont des conservateurs. Vous avez des gens qui viennent de New York, New Jersey, Californie, pour leur retraite, qui sont plutôt des gens de gauche. Donc, chaque année, chaque élection, c'est toujours très serré. Vous vous rappelez de l'élection de 2000?
2000, absolument.
Bush a gagné sur le vice-président à l'époque.
Al Gore.
Et c'était très argumenté. Et il fallait compter chaque fois. Donc c'est la même chose chaque année. Il y a toujours des problèmes en Floride.
Alors, professeur Diouf, quelle lecture vous faites de ce qui se passe en ce moment en Floride? Bon, on ne va pas peut-être penser que ça peut aller jusqu'au scénario de 2000, mais quand même, cela montre que ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile, c'est aussi la manière dont, en fait, l'administration des élections est faite dans ce pays. Et c'est très drôle quand on considère qu'aujourd'hui, probablement, il y a plein de pays africains qui organisent des élections mille fois mieux que les Américains, malgré leur avancée technologique, et qu'on pourrait leur donner, en fait, si vous voulez, des solutions à certaines des questions qu'ils ont. Mais la Floride est compliquée non seulement pour ce que M. Cohen a dit, c'est-à-dire la diversité de la provenance des gens qui y habitent, leur âge, et leur demande, si vous voulez, en termes d'assistance médicale, mais c'est aussi, en particulier depuis, la crise à Porto Rico, une arrivée massive, disons, de Portoricains, et le changement, si vous voulez, de la position des Cubains. La nouvelle génération de Cubains, d'Américains d'origine cubaine, ne fonctionnent plus, en fait, si vous voulez, comme leurs parents, qui étaient systématiquement à droite à cause de leur position contre Castro et le régime castriste. Donc, la seule solution aujourd'hui, parce que ça aussi, il faut prendre ça en considération, c'est pour ça que je parlais d'une comparaison avec l'Afrique. Les républicains ont une culture qui est une culture de la manipulation des élections. C'est-à-dire, ce qu'ils essaient, alors que le principe américain est que chaque voix compte et qu'on doit donner à chaque Américain la possibilité de participer aux élections, les républicains, au contraire, tentent partout, on l'a vu en Floride, on l'a vu en Géorgie, tentent partout de limiter la possibilité de voter pour en particulier les minorités.
D'accord. Bon, nous avons un auditeur de Kinshasa, Alphonse Mbouaké. Alphonse, bonsoir. Allô, Alphonse.
Bonsoir,
Oui, on vous écoute. La ligne n'est pas très bonne, hein, j'ai l'impression. La ligne n'est pas très bonne, malheureusement, Alphonse. Ambassadeur Cohen, nous allons parler un peu de politique étrangère. On est à quelques minutes de la fin de l'émission. Est-ce que ces élections, ces résultats peuvent influer d'une manière ou d'une autre sur le temps du président, ou en tout cas sur sa manière de, sa vision, que ce soit sur l'OTAN, sur le climat, sur l'aide étrangère?
Ce qui me frappe beaucoup, c'est que le président n'a rien changé pour notre politique envers l'Afrique. Il a essayé de réduire l'aide au développement, mais le Congrès a refusé. Donc, et aussi, il a essayé de renverser les projets d'Obama. Mais en Afrique, tout marche comme avant. Il y avait des très bons projets de Bush fils. Il y avait des très bons projets d'Obama. Et ces projets restent, par exemple,
comme le Power Millennium Africa, Challenge, Power Africa aussi.
MCC, agriculture, tous ces. Donc, je me félicite que la politique envers l'Afrique reste la même.
D'accord. Mais, et pour l'OTAN, par exemple?
Pour l'OTAN, c'est plus difficile parce que président Trump dit que ils disent que les Européens se moquent de nous. Ils sont des alliés, mais c'est nous qui payons toutes les factures.
Certains membres du Congrès sont plus ou moins d'accord avec lui, et des administrations précédentes ont aussi cherché à faire augmenter la contribution des Européens à l'OTAN. Merci beaucoup. Nous avons Mamadou Diouf. Alors, pour terminer, votre point de vue sur l'influence que cette élection pourrait avoir sur la politique étrangère?
L'influence, je suis d'accord avec M. Cohen sur le fait que parce que Trump a des fixations. Des fixations, si vous voulez, c'est la Chine, c'est l'OTAN et c'est l'URSS, la Russie, de manière assez différente. Et des pays, un continent comme l'Afrique, si vous voulez, en bénéficie parce que l'administration et les institutions qui ont en charge la politique africaine sont capables de la mener dans la continuité sans intervention du président Trump. Mais pour la Russie, ça va changer.
Comment ?
Une question très simple, c'est qu'aujourd'hui, les démocrates vont être capables de protéger des institutions comme la CIA, comme le FBI, qui sont en train de faire des enquêtes sur, en fait, l'immixtion de la Russie dans les élections américaines.
D'accord, merci.
La deuxième chose qui est très, très,
rapidement.
Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la capacité à contrer, si vous voulez, la politique.
Voilà, nous avons quelques soucis. En tout cas, merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf de Columbia University. Merci également à Herman Cohen, comme toujours, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Merci, au revoir.